Camarades et amis, bonsoir et bienvenue à la fête de lutte ouvrière. C'est une fête où la conscience de classe et la combativité ouvrière sont à l'honneur. Une fête où la fraternité est un sentiment partagé, à l'opposé de l'idéologie bourgeoise véhiculée par Macron. Son mépris et son arrogance sont sociales. Ce mépris s'est égrené ces derniers mois à travers des petites phrases anti-pauvres, anti-ouvrières. En juin, il parlait du pognon de dingue mis dans les minima sociaux. En septembre, face à un horticulteur qui l'interpellait sur sa difficulté à trouver du travail, il prétendait qu'en traversant la rue, « je vous en trouve, moi, du travail ». Il faut vraiment n'avoir jamais essuyé des dizaines de refus, n'avoir jamais attendu en vain une réponse à un CV, ne s'être jamais levé pour une mission d'intérim annulée au dernier moment pour tenir de tels propos. Et la semaine dernière, à une retraitée évoquant le faible niveau de sa pension, il répondait « la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de se plaindre ». C'est le même refrain qu'il nous serine. Il rend responsables les travailleurs de toutes les difficultés qu'ils subissent. Le chômage, c'est de leur faute. C'est qu'ils refusent de travailler. Dédouaner les grands groupes comme Carrefour, Peugeot, Sanofi, qui licencient par milliers avec des bénéfices records. Sans parler des banques comme BNP Paribas, Société Générale, qui suppriment cette année près de 8000 emplois. Après les pauvres et les chômeurs, ce sont les retraités qu'ils qualifient de privilégiés. Alors oui, on ne peut qu'être révolté par ces propos. Et le rejet quasi unanime de Macron dans les milieux populaires est la seule chose qu'il n'a pas volée. Mais Macron ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Si rejeter Macron est une évidence, il nous faut rejeter avant tout la classe capitaliste qu'il sert avec arrogance, mais avec le même zèle que ses prédécesseurs, Hollande et Sarkozy. Le grand patronat qui se réjouit de voir Macron parler du pognon de dingue dépensé dans les minima sociaux ferait bien de balayer devant sa porte. Souvenez-vous, il y a 10 ans, comment la faillite de la banque Lehman Brothers à Wall Street a déclenché la plus violente crise économique depuis 1929. Elle a provoqué la paralysie du système bancaire mondial. En quelques jours, les actions des principales entreprises se sont effondrées. Pour renflouer les banques et les capitalistes, tous les gouvernements, d'Obama aux États-Unis à Sarkozy en France, ont injecté des centaines de milliards de dollars d'argent public dans le système financier. Comme les États ne possédaient pas ces sommes astronomiques, ils les ont empruntées auprès des banques. Ces masses d'argent ont fait gonfler la dette publique dans des proportions jamais vues. Non seulement les banques ont été sauvées sans être sanctionnées pour leur comportement, mais elles se sont enrichies en prêtant aux États venus à leur secours. Alors ceux qui coûtent un pognon de dingue, ceux qui vivent en parasite du travail humain, ceux qui pillent les caisses publiques, ce sont bien ces capitalistes à qui il faudra bien un jour demander des comptes. La bourgeoisie du XXIe siècle est devenue parasitaire. Elle ne croit même plus à son propre système. Le capitalisme n'est plus ce système dynamique qu'il a été à ses débuts. Il était bien sûr dès sa naissance, basé sur une exploitation féroce. Mais sur le plan économique, il était capable de développer des capacités de production, des infrastructures, des voies de chemin de fer. Aujourd'hui, la bourgeoisie ne développe que quelques secteurs très rentables et se contente de piller ceux qui existent. Les profits qu'elle dégage de l'exploitation des travailleurs vont prioritairement à la spéculation à court terme. Cette crise, les travailleurs ne finissent pas d'en payer la note. Par la fermeture d'usines, par des suppressions d'emplois, des dizaines de millions de travailleurs dans le monde ont été jetés au chômage. Aux États-Unis, Plus de 7 millions de ménages ont perdu leur logement. Des pays entiers, comme l'Islande ou la Grèce, ont été ruinés. Et aujourd'hui, d'autres pays, comme la Turquie ou l'Argentine, sont menacés d'asphyxie. Ici en France, Macron est exaspéré par les plaintes qui émanent des travailleurs et des classes populaires. Mais son cœur et son oreille sont sensibles aux moindres vœux émis par les riches et le grand patronat. C'est pour permettre à la bourgeoisie d'accaparer toujours plus de richesses, pour verser des intérêts aux banquiers, pour exonérer les entreprises de toutes sortes de taxes, pour les arroser de toutes sortes de cadeaux, comme les 48 milliards du CICE, que Macron mène des attaques incessantes contre les travailleurs. La dette de l'État, aggravée par la crise, sert de prétexte pour tailler dans les budgets des hôpitaux, des écoles, des communes et de tous les services publics utiles à la population. Alors qu'il a supprimé l'impôt sur la fortune, il a augmenté la CSG et gelé les pensions. Avec ses ordonnances qui démolissent le Code du travail, les recours des travailleurs au prud'homme et leurs moyens légaux de se défendre se sont considérablement réduits. Le patronat peut licencier à sa guise, baisser les salaires et imposer les horaires qui lui conviennent. Dans tous les secteurs, et pas seulement dans l'industrie, la précarité s'est généralisée avec les bas salaires qui l'accompagnent. Macron et le patronat veulent réduire le montant et la durée des indemnités chômage, privant de ressources de nombreuses familles. Ils veulent renforcer le contrôle des chômeurs et préparent une nouvelle dégradation des conditions de départ à la retraite. Pour faire accepter son attaque sur les retraites, Macron tente d'opposer les travailleurs du public à ceux du privé, les travailleurs actifs à ceux qui, après une vie de labeur, se retrouvent avec des pensions de misère et ne s'en sortent pas. Alors que le chômage et la pauvreté s'étendent, les profits des grands groupes, eux, s'envolent. Près de 7 milliards pour Sanofi et autant pour Total. Les dividendes versés aux actionnaires continuent de battre des records. 500 milliards de dollars dans le monde pour le seul deuxième trimestre 2018. L'an dernier, Bernard Arnault, le patron du groupe LVMH, a vu sa fortune s'accroître de 1300 euros toutes les deux secondes. Une somme que bien des travailleurs ou des retraités ne gagnent même pas en un mois. Les inégalités n'ont jamais été aussi fortes. Il n'y a aucune issue à la crise, aucun terme possible à ces inégalités dans le cadre de ce système. Ah, on peut focaliser sur Macron, qui fait bien son travail de serviteur. Mais Macron n'est guère différent ni plus fort que ses prédécesseurs. Il arrive simplement après eux, dans un contexte où la concurrence que se livrent les bourgeois est de plus en plus âpre. La guerre commerciale qui sévit entre les États-Unis et l'Europe, la Turquie ou la Chine en est le reflet. Quant à la guerre sociale, elle ne s'arrêtera pas. Pour continuer à verser toujours plus de dividendes aux actionnaires, alors que son système s'enfonce dans la crise, les capitalistes n'ont pas d'autre moyen d'augmenter leurs profits que d'aggraver les conditions d'existence des travailleurs. Pour les faire reculer, pour se défendre, les travailleurs vont devoir leur opposer toute leur force collective. Cette semaine, dans le journal patronal Les Échos, on pouvait lire l'inquiétude du FMI, le Fonds monétaire international, institution qui défend les intérêts des puissances impérialistes. Je cite le FMI, le journal. Les récentes statistiques montrent un affaiblissement tant du commerce international que de l'activité manufacturière et de l'investissement. Nous ne voyons pas comment les États pourraient réagir en cas de nouvelle crise. Le message est clair. Une nouvelle crise financière est devant nous et rien ne pourra l'enrayer. Le capitalisme, c'est le chaos. Sur le plan économique, avec son chômage de masse, mais aussi sur tous les autres plans. Il est à l'origine de tous les maux dont souffre l'humanité. Les responsables politiques parlent beaucoup d'écologie et des menaces qui pèsent sur la planète. Nicolas Hulot, qui a servi de caution verte à Macron, s'est lassé des formules creuses et a démissionné. Mais on ne peut pas avoir une planète en bon état dans une société en mauvais état. Oui, les terres sont polluées, les océans transformés en poubelles, les forêts d'Asie et d'Afrique saccagées. Mais qui est responsable? Qui détient les manettes de l'économie? Qui décide de l'organisation de la production, de l'énergie, des transports? Malgré tous les rapports alarmants en matière de réchauffement climatique, les grands groupes de l'industrie automobile viennent d'imposer au gouvernement européen leurs normes concernant les émissions de CO2. Ils se lavent les mains du sort de la planète. C'est après eux le déluge. La course au profit est à l'origine des guerres qui s'étendent aux quatre coins de la planète. Pour satisfaire les ambitions des groupes miniers et pétroliers des pays impérialistes, des régions entières ont été mises en coupe réglée. La guerre est sans fin au Sahel et au Moyen-Orient. Des pays comme l'Afghanistan, le Yémen, la Syrie ont été transformés en champs de ruines. Des milliers de personnes migrent pour tenter de sauver leur peau, pour fuir la misère, pour espérer tout simplement une vie meilleure. Au péril de leur vie, ils traversent des déserts, des montagnes, et se heurtent aux frontières et aux barbelés hérissés par les dirigeants d'Europe. La Méditerranée s'est transformée en cimetière. Plus de 30 000 hommes, femmes, enfants s'y seraient noyés. Et aujourd'hui, on empêche l'Aquarius de leur porter secours sous prétexte qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Il faut dénoncer ce discours de résignation qui vise à refuser d'apporter une aide élémentaire et qui vise à nous dresser les uns contre les autres. Nous devons accueillir les migrants, frères de classe. Ils doivent circuler librement et s'installer là où ils le désirent. Le capitalisme qui pourrit sur pied fait ressurgir dans toute l'Europe et même au-delà des courants et des partis d'extrême droite. L'écœurement alimenté par les plans d'austérité menés par les partis traditionnels de gauche comme de droite ont largement contribué à les faire prospérer. En Hongrie, en Autriche, en Italie, des partis d'extrême droite sont au pouvoir. Ces partis ont utilisé la question des migrants pour gagner des voix en spéculant sur les peurs et les préjugés. Et une fois au pouvoir, ils continuent à se servir des migrants comme bouc émissaire pour faire oublier les autres problèmes. En Autriche, la journée légale de travail est portée à 12 heures. En Italie, le pouvoir a enterré sa promesse de lutter contre la précarité. Les partis d'extrême droite sont comme tous les autres, à plat ventre devant les patrons. Ce sont des ennemis des travailleurs. Cela doit être un avertissement pour tous ceux qui, dans les rangs ouvriers, se laissent séduire par les discours d'une Marine Le Pen. Ils se prétendent anti-système, mais ils sont avant tout anti-ouvriers. Ce qui s'est passé en Allemagne, à Chemnitz, doit aussi nous alerter. L'extrême droite s'est saisie de la mort d'un Allemand lors d'une bagarre pour occuper la rue et faire la chasse aux étrangers. Ils s'en sont pris également à un restaurateur juif et à des militants de gauche en bénéficiant de complicité dans les rangs de la police elle-même. Même s'il y a eu des contre-manifestations avec beaucoup de monde, ce qui est réjouissant, ces événements prouvent que le climat politique peut se détériorer très vite. Les succès électoraux de l'extrême droite peuvent se transformer très vite en coups de poing. Aujourd'hui, à Chemnitz, l'extrême droite vise des migrants, des musulmans, des juifs. Demain, comme les fascistes le firent dans le passé. Ce sont les militants ouvriers ou les travailleurs qui refusent de se laisser faire qui seront aussi attaqués. Toutes ces menaces ont la même origine. Rien ne peut étancher la soif de profit des capitalistes. Plus ils en ont, plus ils en veulent. Ce système complètement fou ressemble à un bolide lancé à grande vitesse qui dévaste tout sur son passage et que personne ne contrôle. La propriété privée des moyens de production, de la terre, des usines, des banques, des transports est un non-sens. Elle est en contradiction avec la division internationale du travail. Tout ce qui nous entoure est le produit d'un travail social, implique une chaîne de coopération humaine à l'échelle mondiale. Et pourtant, ce profit est privé, et même éminemment privé. Les 7 personnes les plus riches posséderaient autant que la moitié de l'humanité. La survivance du capitalisme nous met face à des problèmes insolubles dans le cadre de ce système. On ne remettra pas en cause la domination de la bourgeoisie par un bulletin de vote. C'est ce qu'ont fait croire tous les dirigeants de gauche, communistes et socialistes dans le passé. Et c'est ce que prétend à son tour Mélenchon aujourd'hui. Le capitalisme est un système qu'on ne peut ni réguler, ni immoraliser. On ne peut pas convaincre les patrons de limiter l'exploitation. La seule chose qui a pu les freiner, c'est quand le rapport de force s'est modifié en faveur des travailleurs, comme ce fut le cas en 1936 ou en 1968. La classe ouvrière représente l'avenir. Sa force est considérable. Elle est présente dans tous les pays. Par son nombre, son rôle dans la production et l'économie, elle est la seule force sociale capable de s'attaquer à la racine même des problèmes. Car c'est sur elle, sur son travail que repose toute la société, sans elle, rien ne fonctionne. Le changement ne peut venir que de l'action consciente et collective des travailleurs. Bien sûr, pour améliorer leurs conditions de vie et leurs salaires, mais au-delà, pour abattre ce système de pression, prendre le pouvoir, construire un État ouvrier qui mettra un terme à la propriété privée des moyens de production. Les travailleurs sont capables de prendre le pouvoir et de l'exercer 1000 fois mieux que la bourgeoisie. On a déjà vu la classe ouvrière à l'œuvre. Elle a pris la tête de grandes luttes, de grandes insurrections et de révolutions. Elle a montré qu'elle était capable de renverser des régimes, de prendre le pouvoir et de réorganiser le pouvoir sur d'autres bases. Car lorsque les travailleurs sont entraînés dans de grandes luttes et qu'ils s'organisent et qu'ils dirigent eux-mêmes leurs luttes, c'est là qu'ils réalisent qu'ils sont capables de faire ensemble. Ils prennent confiance, se politisent, découvrent que l'émancipation des travailleurs dépend vraiment d'eux-mêmes. Oui, aujourd'hui, nous sommes conscients que la combativité et la conscience des travailleurs n'en est pas là. Mais la rapacité sans limite de la bourgeoisie l'amènera un jour ou l'autre à prendre la mesure de trop, celle qui déclenchera l'explosion sociale. L'explosion sociale qui les fera enfin reculer. C'est cette perspective révolutionnaire qu'ont défendue à leur origine les partis socialistes et communistes. Ils l'ont abandonnée l'un et l'autre depuis longtemps. Gangréné par le stalinisme, le parti communiste a cédé à l'idéologie de la bourgeoisie. Abandonner le combat révolutionnaire, le drapeau rouge et l'internationalisme pour défendre le drapeau bleu-blanc-rouge, le nationalisme et la démocratie bourgeoise. Je tiens ce soir à rappeler le rôle irremplaçable joué par Trotsky et tous les militants qui l'ont rejoint dans son combat contre Staline. Cela a valu aux trotskistes soviétiques d'être d'abord exclus, puis déportés avant d'être massacrés. Grâce à leur combat, on peut aujourd'hui fièrement se revendiquer du communisme, qui n'a rien à voir avec la dictature stalinienne. En octobre 1938, il y a tout juste 80 ans, Trotsky fondait la 4e internationale et plantait un drapeau pour regrouper tous les communistes révolutionnaires du monde. Nous consacrerons vendredi prochain une conférence à Paris sur ce sujet. Nous y invitons tous ceux qui peuvent venir. Alors pourquoi ? Parce que l'héritage politique qu'il nous laisse est d'une actualité brûlante. Trotsky nous a transmis une analyse du nazisme et du fascisme comme étant des formes de dictature particulièrement féroces, utilisant la rage de la petite bourgeoisie ruinée par le capitalisme pour détruire les organisations ouvrières et encadrer toute la société au service de la grande bourgeoisie. Comprendre ce phénomène social et politique permet de mesurer les limites des poussées électorales de l'extrême droite que nous connaissons à l'époque actuelle, mais aussi ses dangers. Car d'une certaine manière, aujourd'hui, on est un peu dans les années 30, avec ses crises, ses instabilités politiques, ses rivalités entre puissances impérialistes et la montée des idées réactionnaires. Socialisme ou barbarie, c'est en ces termes que l'avenir se posait en 1938. C'est toujours vrai en 2018. Oui, la propriété privée des moyens de production est un frein énorme au développement de la société. Elle ne fait pas que la freiner, elle la fait reculer. Et pourtant, la mise en commun des richesses est une nécessité. La planification de la production de biens utiles serait un outil formidable pour répondre rapidement aux besoins de tous. Les moyens technologiques, les compétences humaines, les moyens scientifiques, les moyens de transport permettraient sans problème à chaque habitant de la planète de vivre dignement, de s'épanouir sans peur du lendemain. C'est seulement dans ce cadre qu'on pourra tenir compte de l'environnement et privilégier des choix qui respectent la nature. Alors, camarades, vive la révolution sociale, vive le communisme. Avant de passer à l'apéritif et au banquet, au repas, je vous propose de chanter le chant des travailleurs, l'international.
Debout les damnés de la terre,
debout.